La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Je vais lire dans 2 Samuel 21, versets 15 à 22. 2 Samuel 21, versets 15 à 22. Les Philistins font de nouveau la guerre aux Israélites. David et ses soldats vont attaquer les Philistins. Tout à coup, David ressent une grande fatigue. Alors, Ishmi Benob, un homme de la famille de Arapha, décide de tuer le roi. Ishmi Benob porte une épée neuve à la ceinture et la pointe de bronze de sa lance pèse plus de 3 kilos. Mais Abishai, fils de Seruya, vient au secours de David et il tue le Philistin. Alors, les soldats font promettre au roi de ne plus venir à la guerre avec eux. Ainsi, la langue d'Israël ne s'éteindra pas. Plus tard, il y a encore un combat contre les Philistins à Gob. La Sibkaï de Husha tue Saph, un homme de la famille de Arapha. À Gob, il y a un deuxième combat contre les Philistins. Cette fois, Elanan, fils de Yari, de Bethléem, tue Goliath de Gath. Le bois de la lance de ce Philistin est aussi gros que la barre d'un métier à tisser. Un autre combat a lieu à Gath contre un ennemi géant. Il a 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout. Lui aussi est de la famille de Arapha. Il insulte les Israélites. Alors, Yonathan, fils de Shama et neveu de David, le tue. Ces 4 soldats philistins de la famille de Arapha de Gath tombent sous les coups de David et de ses soldats.
Je ne suis pas certain que vous tous qui êtes présents ici ce matin avez déjà lu attentivement le passage que Léonore vient de nous lire. Personnellement, je ne me souviens pas avoir entendu une prédication sur ce texte. Et j'ai voulu relever le défi ce matin. Parce que je trouve qu'il recèle une formidable leçon. Vous et moi avons certainement toujours pensé que seul David a pu vaincre Goliath. Faux. D'autres l'ont fait. Non pas avant lui, mais après lui. Et ce passage nous relate les exploits de 4 de ces hommes, 4 guerriers remarquables, des soldats exercés à la guerre, au combat, mais quand même. Ils ont mené de rudes batailles contre les Philistins. Alors en ce temps-là, les Philistins occupaient une bande de terre d'environ 25 km de large sur 80 km de haut, un peu plus haut que la bande actuelle de Gaza. Ça vous dit quelque chose, la bande de Gaza? C'est un territoire qui appartient à l'État palestinien, de même que la Cisjordanie. Eh bien, la Philistie à l'époque, donc là où se sont déroulés ces combats, s'étendait de Gaza jusqu'à Joppé ou Jaffo, un peu plus au nord, donc sur la côte orientale. Occidentale, pardon. Ces hommes se nomment Abishai, fils de Tseruja, alors selon les traductions, bien sûr. Savez-vous qui est Tseruja? Donc, 2 Samuel 21, verset 17. Abishai est venu au secours du roi. Au moment même où celui-ci défaillait. Qui est Abishai? Le fils de Tseruja, certes, mais qui est Tseruja? La sœur de David. Eh oui. Donc Abishai est son neveu. Sibekai, le Hushatite, a réalisé le même exploit. Ainsi qu'Elkanan, le fils de Jaïr, et Jonathan, fils de Chiméa ou Shamma. Ça vous dit quelque chose, Shamma? Qui est Shamma? Un frère de David. Encore un neveu capable de combattre un Goliath. Ces gens-là combattaient pour l'Éternel, tout comme autrefois David avait combattu pour l'honneur de l'Éternel. Abishai veut dire « mon père est un cadeau ». C'est un joli nom ça. Abishai, mon père est un cadeau. Oui, parce que David a été un cadeau pour Abishai. C'était un père dans la foi. Et puis, bien sûr, son père de sang était aussi un cadeau pour Abishai. Je n'ai pas trouvé la signification du nom Sibekai, mais je soupçonne qu'il y a le mot bénédiction à l'intérieur, Baraka. Elkanan, Dieu fait grâce. Jonathan, l'Éternel a donné. Ces hommes-là combattaient les Philistins au nom de l'Éternel, tout comme autrefois David avait combattu Goliath au nom de l'Éternel. Ces gens étaient des descendants d'un homme remarquable. Comment s'appelle-t-il? Rapha ou Arapha. Alors, petit excursus, au sud de la bande de Gaza, il y a une localité qui s'appelle, comme par hasard, Rapha. Pas aller chercher loin. Ces gens occupaient ce territoire. Rapha était un colosse et il a donné naissance à des colosses. Goliath était de cette famille-là. On nous dit dans Deutéronome 2, verset 21, que les Réphaïm ou Réphaïtes, si vous lisez dans la Nouvelle Bible Second, sont des descendants de Rapha. Donc, ces Réphaïm sont les descendants de Rapha. Ils faisaient partie des populations cananéennes. Et ils étaient connus, et là je cite la parole, pour être un peuple grand, nombreux, de haute taille, comme les très célèbres Anakim ou Anakites, fils d'Anak. Ces gens qu'il a fallu combattre pour conquérir la terre promise, à savoir le pays de Canaan. Et c'est d'ailleurs pour cela que la plupart des espions, après avoir découvert le pays, sont revenus découragés. Ils sont trop grands, trop impressionnants, trop puissants. On n'y arrivera pas. Ils y sont finalement arrivés. Parce que l'Éternel les a secourus. Et donc ces quatre soldats luttent contre quatre géants et l'emportent sur eux. Et ces quatre géants nous rappellent Goliath de Gath, qui en son temps avait lutté contre le roi David, alors qu'il était encore un jeune homme. Et vous savez qu'il s'est illustré avec sa fronde, sa témérité et son courage. Remarquez que les quatre géants qui sont décrits ici, ont des caractéristiques qui rappellent Goliath, justement. Comme pour nous dire, eux aussi ont vaincu, à l'instar de David. Jishbi Benob avait une lance et une épée de grande taille. Je parle là des guerriers philistins, des Réphaïm. Saph ou Sipaï était très grand, impressionnant. Et puis il y en a un qu'on nomme Goliath. Alors là, on est un peu troublé. Certains ont même pensé qu'Elkanan était en réalité David, sous un autre nom. Un peu curieux. Je ne partage pas cette interprétation-là, mais pourquoi pas. Je pense plutôt qu'il faut rejoindre le texte parallèle qui se trouve dans les Chroniques, donc 1 Chronique 20, versets 4 à 8, pour les curieux. Et dans les Chroniques, on nous relate à peu près les mêmes faits. 1 Chronique 20, versets 4 à 8. Les victoires illustrent sur les Philistins. Voilà comment se nomme ce chapitre. Là, trois combats, trois corps à corps vont être relatés. Et on va nous dire que Elkanan, fils de Jaïr, au verset 5, a tué le frère de Goliath. En réalité, ce n'était pas Goliath en personne, mais c'était son frère. Sauf que le premier Goliath ne vivait plus. David lui avait tranché la tête. Et donc le frère de Goliath était à ce point ressemblant à son frère défunt qu'on l'appelait Goliath. C'était un Goliath, lui aussi. Vous voyez ? C'était devenu un nom légendaire. C'était un Goliath. Et comme son frère, il est capable de porter une lance aussi grosse qu'un cylindre de métier à tisser sur lequel on enroule le tissu, avec au bout une pointe en fer d'environ 5 ou 6 kilos. Et ça, il fallait pouvoir manier de manière avec dextérité, de manière habile. Le quatrième géant, il n'a pas de nom celui-là, était aussi un homme immense. Il avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied. Et là, le chiffre 6 évoque la taille de Goliath, qui était de 6 coudées et un empan. 6 coudées, environ 3 mètres. Vous voyez ? Et tout comme Goliath, ce dernier homme de guerre a jeté un défi à Israël, parce qu'il s'en sentait capable. Il voulait lui aussi un combat entre deux champions. Eh bien, son compte a été réglé par Jonathan. David a tué un géant, on est d'accord ? Mais pas que lui. 4 guerriers, 4 de ses serviteurs, comme il est précisé au verset 22 du chapitre 21 du deuxième livre de Samuel, eh bien, 4 de ses serviteurs en ont fait autant. Et là, permettez-moi de penser un instant à Saül. Saül, lui, a tremblé devant Goliath. Y a-t-il un seul de ses hommes, un seul de ses soldats, qui a eu le courage de se lever ? Un seul qui a eu la force d'aller au-devant d'un de ces géants? Aucun. Ceux qui ont trouvé le courage de s'avancer sont tous des hommes de David, pas des hommes de Saül. S'avancer vers des géants, on est d'accord. Alors on peut se poser la question, pourquoi les hommes de David ont-ils réaliser cet exploit alors que les hommes de Saül n'ont pas su le faire? Eh bien, c'est la force de l'exemple, d'une part. La force de l'exemple. On va dire que le courage, tout comme la couardise, le contraire du courage, on appelle ça aussi la lâcheté ou la poltronnerie, sont contagieux. Pourquoi les hommes de David ont-ils réalisé de tels exploits ? Parce qu'ils étaient aussi, il faut le dire, attachés à leur chef. Ils l'aimaient, ils l'appréciaient. Ils avaient de l'admiration pour lui. Autrement, ça n'aurait pas fonctionné. Ils n'auraient pas pu s'identifier à lui et mener les combats qu'ils menaient. Parce que remarquez à la fin, le texte est élogieux, c'est David et ses serviteurs qui ont vaincu ces 4 hommes, ces 4 Goliaths-là. Ce n'est pas David tout seul. Et ce ne sont pas Abishai pour sa part, Elkanan, Sibekai et Jonathan. Mais ensemble, ils ont vaincu. Je crois que David était un bon général. La preuve, c'est qu'il n'hésitait pas, lui aussi, à dégainer l'épée. Et oui. Et Abishai vient d'ailleurs à son secours quand il renverse le géant. Une citation de la marquise de Lambert, dans un livre du XVIIIe siècle qui a pour titre « Avis d'une mère à son fils ». Il faut commander par l'exemple et non par l'autorité. L'admiration force à l'imitation, bien plus que le commandement. Et traiter rudement ces soldats, c'est être leur tyran et non pas leur général. Je crois que David avait bien compris cela. Il n'était pas pour ses soldats un tyran. Il ne traitait pas rudement, au contraire. On voit même par moments qu'il avait de la compassion pour eux. Quand les deux hommes reviennent en disant « On a traversé le camp des ennemis, voici, on te ramène un peu d'eau. » Oh ! Il dit « Ah non, je ne boirai pas de cette eau. Vous l'avez fait au péril de votre vie. » Il aimait ses soldats. Il défendait leur vie. Et en retour, ils en faisaient autant. Alors, comment devient-on un exemple pour les autres? On peut se poser la question pour David. Comment David est-il devenu un tel exemple pour les autres? Alors, on est d'accord, il n'a pas été un exemple en toute chose. C'est un homme comme tout le monde. Il a eu ses failles, il a eu ses travers. Je ne les ignore pas. Mais je reste sur le fil de ce message, à savoir que David a entraîné ses hommes au combat et leur a permis, merci, d'aller loin, très loin. Comment devient-on un exemple pour les autres? Comment David est-il devenu un exemple pour les autres? En faisant 4 ou 5 heures de musculation tous les jours? En prenant des cours de maniement des armes pendant des heures, chaque semaine? Certainement il s'est exercé. Mais cela n'a pas suffi, parce que quand il a mené son premier combat, celui dont on se souvient tous, il n'avait pas d'épée ni de lance. David a pu vaincre le géant parce qu'il avait lui-même un modèle. On devient un exemple pour les autres, malgré soi, en choisissant pour soi-même un bon modèle. C'est comme ça que ça fonctionne. David a pu vaincre le géant parce que l'Éternel était son modèle, et parce qu'il avait pour son Dieu et son Sauveur beaucoup d'amour, d'admiration et de respect. Lisez avec moi les deux ou trois premiers versets du psaume 68, et vous en serez convaincus. Vous allez voir qu'il perçoit Dieu comme un guerrier valeureux, qui ne tremble pas devant ses adversaires, qui ne redoute pas la lance, le javelot, l'épée et l'arc. Psaume 68, psaume de David, verset 2, « Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. » Donc tu les fais disparaître de ta vue. « Comme la cire se fond au milieu du feu, les méchants disparaissent devant Dieu. » Il aimait son Dieu, il s'identifiait à lui. Ce Dieu devant lequel aucun adversaire ne pouvait tenir. Dieu était le plus fort. Dieu a toujours été pour lui le vainqueur. Et c'est pour ça qu'il pouvait combattre les batailles de l'Éternel. Et à leur tour, ces hommes qui lui étaient dévoués, nous les avons nommés, eh bien, ont été capables de combattre pour David et pour l'Éternel. Je vais vous proposer un petit exercice. Pensez à une personne de notre temps que vous connaissez, que vous admirez, pas un personnage biblique, hein, une personne de notre temps, de notre époque, de votre entourage peut-être, qui, par son exemple, moi je vais dire ça, vous tire vers le haut, vous donne envie de vous dépasser, de progresser, vous inspire, bref, vous influence dans le sens du bien. Pensez à une personne qui a sur vous, sur votre vie, un impact positif. Vous y êtes ? Vous avez son image à l'esprit ? Ça peut être un père, le père, la mère, un parent, pasteur, missionnaire, ancien membre d'église, personnalité du monde sportif, artistique, journalistique, politique, scientifique, littéraire, comme vous voulez. Maintenant, essayez d'identifier précisément les caractéristiques ou les qualités qui font de cette personne une personne exceptionnelle à vos yeux. Alors, il y a plusieurs caractéristiques. Retenez-en deux. En pensant à cette personne, identifiez deux de ses qualités qui font que vous avez pour elle de l'admiration, du respect, de l'estime. Qu'est-ce qui fait qu'elle est exceptionnelle à vos yeux ? Et maintenant, faites le rapprochement avec Jésus. Ce que vous savez de Jésus, ce que vous avez entendu de lui, ce que vous avez lu sur lui. Ne constatez-vous pas que les qualités de cette personne, son charisme, sont également, peu ou prou, les qualités, le charisme du Christ ? Il est l'homme par excellence. Il est notre modèle, à tous. Avec Jésus, on ne sera jamais limité. Maintenant, fixez votre pensée sur vous-même. Quel exemple donnez-vous à ceux qui vous observent ? Ont-ils l'opportunité de discerner chez vous les traits ou à tout le moins quelques traits du Seigneur Jésus. C'est aussi une question qu'il faut se poser. Enfin, quel est votre rapport à Jésus-Christ ? Quelle est sa place dans votre vie ? Est-il pour vous une figure d'identification ? Est-ce que vous êtes heureux de vous identifier à lui ? Est-ce que vous aimez penser à lui ? Est-ce que le fait de penser à lui augmente votre courage, votre espoir, votre force, votre foi, votre amour ? Alors, j'ouvre une parenthèse que je referme aussitôt. On n'est pas sauvé par l'exemple que Dieu nous a donné, on est d'accord. Mais son exemple nous aide à rester sauvés. On est sauvé parce qu'il nous a donné sa vie. Il est mort à notre place. Mais en même temps, son exemple nous inspire et nous permet d'entrer de plein pied dans son royaume. Parce que nous sommes appelés à l'imiter. Nous sommes appelés à marcher sur ses traces, de même que les hommes de David ont marché sur ses traces. Ah, la force de l'exemple. Vous savez, nous nous construisons tous, jeunes et vieux, personnes d'âge mûr, pardon, par l'imitation d'un modèle. Quel que soit notre âge, nous avons besoin d'un modèle. Et un jour ou l'autre, nous rendrons compte que les hommes qui nous entourent, fussent les plus brillants, ne suffisent plus. Et pour aller plus loin, il faut rencontrer Jésus. L'intelligence même, la sagesse même, la puissance même. Oui, nous nous construisons tous par l'imitation d'un modèle et Dieu l'a voulu ainsi. Il nous a donc équipés de neurones miroirs. Eh bien, ces neurones, dispositifs que l'on trouve dans le cerveau, eh bien, servent à l'apprentissage justement par l'observation d'un autre, un tiers. Que ce tiers soit une personne réelle, fictive ou imaginaire, ça fonctionne aussi dans ces cas-là. Dire, mais si Jésus n'est pas là, s'il ne peut pas le toucher, non, ça fonctionne aussi si on est en mesure de l'imaginer et de le rencontrer par la pensée, par la prière, et bien sûr par la méditation. Oui, la force de l'exemple. Ah, que n'a-t-elle pas produit dans ce monde ? Des hommes courageux qui ont affronté les plus grandes difficultés, qui qui ont surmonté les plus grands obstacles. J'ai pour vous quelques citations intéressantes qui confirment bien sûr tout cela à merveille. Sur la gouvernance, David était roi. On est mieux gouverné par les exemples que par les lois. C'est un proverbe danois. Un mauvais exemple donné par l'autorité est une prime accordée au vice, de Louis de Bonald. Le mauvais exemple des grands est contagieux aux petits, Bernard Fontenelle. Sur l'éducation, il y a beaucoup de parents ici. Oh parents, l'exemple, sans cela on ne réussit à rien auprès des enfants. C'est de Jean-Jacques Rousseau, dans Émile ou de l'éducation. Les exemples sont les meilleures leçons pour la jeunesse. Encore un proverbe danois. Et qui veut instruire doit instruire par l'exemple. Thomas Wilson. De manière générale, les discours ne sont rien sans l'exemple. Ou, pour rejoindre notre thématique, les mots sont des nains, les exemples des géants. Vous retiendrez celle-là. Les mots sont des nains, les exemples des géants. Ils ont leur pouvoir, mais limité. L'exemple va plus loin. Proverbe suisse de la Confédération suisse. L'exemple en dit plus que les paroles, La Rochefoucauld. Et l'exemple persuade bien mieux que la meilleure des leçons. Proverbe chinois. Vous voyez, c'est une sagesse universelle. Mais il faut choisir son modèle, c'est ça qui est important. Parce qu'on peut se tromper de modèle. On l'a bien vu, autant le courage peut être contagieux, autant la couardise peut l'être également. Alors oui, il faut choisir son modèle. Il ne faut pas se tromper d'exemple. Albert Camus a écrit dans Le mythe de Sisyphe, un exemple n'est pas forcément un exemple à suivre. Et enfin, un proverbe oriental dit ceci, prenez exemple sur ceux qui réussissent et efforcez-vous de faire aussi bien. Je me permettrai aussi de citer la pionnière par excellence de notre mouvement, Ellen White, qui a écrit quelques belles lignes sur ce sujet, la force de l'exemple. Vous trouverez dans Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, paragraphe 29.2, les lignes suivantes. Observant la révolte désespérée des hommes, Dieu a conçu un remède. Le Christ serait son don au monde pour la réconciliation humaine. Ça ne s'arrête pas là. Le Fils de Dieu a été choisi pour venir sur terre réclamer l'humanité et exercer par son exemple une puissante influence éducative permettant aux hommes de résister au pouvoir de Satan. Il est venu façonner le caractère, fortifier l'esprit et dispenser la lumière d'une vraie éducation, de sorte que le véritable but de la vie ne soit pas perdu de vue. Magnifique. Et un peu plus loin, paragraphe 42.2, dans le même livre, il est indigne, qu'est-ce qui va suivre ? Pour celui qui a été racheté, celle qui a été rachetée par le sang du Christ, nous sommes tous ici, de faire de l'obtention des honneurs ou des richesses mondaines sa motivation première. Nous devrions plutôt nous fixer comme objectif l'acquisition d'une connaissance et d'une sagesse qui feront de nous de meilleurs chrétiens, nous préparerons à être utiles en rendant davantage de loyaux services à notre Créateur et en amenant d'autres personnes par notre exemple et notre influence à glorifier Dieu. Je répète, on ne cherche pas à être un exemple. On n'est pas centré sur soi. Ailleurs, elle parle d'influence inconsciente. On cherche pour soi-même un bon exemple. C'est comme ça que ça fonctionne. Et l'apôtre Paul l'avait bien compris. Je vous ai donné... Commençons par Jésus, après l'apôtre Paul. Jésus a dit, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. L'apôtre Paul, soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus. Quand il parle à Timothée, que personne ne méprise ton jeune âge, Timothée. Mais sois un modèle pour les fidèles. Imite-moi comme j'imite le Christ. Les anciens également, sont encouragés à être des modèles du troupeau. Le terme qui est utilisé, c'est le terme typos en grec. Typos, c'est un caractère d'impression. C'est une planche d'impression avec des caractères alignés les uns côté des autres pour former des mots, des phrases. Voyez, c'est ce qui s'imprime dans la vie de la personne. Les Thessaloniciens sont invités à être les imitateurs de Paul. « Vous avez été mes imitateurs », écrit Paul en 1 Thessaloniciens 1, 6 et 7. « Et ceux du Seigneur !» En recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. De sorte que, j'aime bien la suite, « vous êtes à votre tour devenu un modèle », toujours le mot « typos », pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Voilà comment Dieu travaille dans nos vies. Il nous attire à lui par ses hauts faits. Il nous éblouit et nous l'aimons. Il nous aime et nous le respectons. Je vais pour finir vous dire quel est un personnage que j'admire parmi d'autres. Un personnage que j'admire en particulier, c'est un homme qui a su aller jusqu'au bout, payer de sa vie son témoignage pour Christ. C'est le fondateur de l'Église confessante. Vous y êtes, Deuxième Guerre mondiale. Il a été tué au moment même de la libération. Allez savoir pourquoi Dieu l'a permis, c'est ainsi. C'est Dietrich Bonhoeffer, pasteur allemand, un résistant. Il m'inspire. Droit, fidèle, honnête, jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Il a mené le bon combat, le combat de la foi. Et il nous a laissé la force de son exemple. Et cet homme, tout comme les autres hommes qui nous impressionne et qui nous tire vers le haut, eh bien, avait un modèle, Jésus-Christ. Amen.